Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Comment aborder l'histoire de la Shoah à l'école? C'est une des questions à laquelle tente de répondre l'exposition itinérante sur les traces d'une photo mise en place par l'association Yad LaYaled en France. Cette exposition retrace le parcours de 10 enfants sauvés et propose aux enfants une mallette pédagogique afin de les sensibiliser au sort des enfants juifs sous le nazisme, au rôle des groupes de résistants qui ont organisé le sauvetage des enfants, à l'importance de l'action individuelle à travers le rôle des justes, et bien sûr aussi au sort de ce 1,5 million d'enfants qui ont été assassinés par les nazis, ceux qui n'ont pas été sauvés. Avec nous pour en parler, Laurent Klein, qui est directeur d'une école élémentaire du 19e arrondissement, 17 rue de Tanger, et Galit Touati de l'association Yad LaYaled France, une association qui fête cette année ses 15 ans. Alors pour commencer, j'aurais voulu savoir comment est née cette association.
Yad LaYaled France est née il y a 15 ans, à partir d'une initiative d'un médecin d'origine lyonnaise, Marc Aron, qui a décidé à la création du musée Yad LaYaled en Israël d'organiser une association de soutien de ce musée. Ce musée est situé donc sur le site de la Maison des combattants des ghettos en Galilée, à quelques kilomètres de Akko, Saint-Jean-d'Acre. Et il existe depuis 1997 ce site qui accueille des enfants à partir de l'âge de 9 ans et qui a développé une pédagogie adaptée à des élèves et des enfants de cet âge-là et qui propose de découvrir, connaître, rencontrer l'histoire de la Shoah à partir d'une approche adaptée à leur âge et à leur sensibilité. Et du coup, Marc Aron a eu l'idée de créer une association de soutien de ce musée afin de faire connaître cette pédagogie parce qu'il a trouvé qu'elle était originale et tout à fait proche de la manière dont il avait envie de transmettre l'histoire de la Shoah à ses petits-enfants, vraisemblablement. Et l'association s'est développée au fil des années et nous avons la chance de fêter nos 15 ans cette année et de nous féliciter d'avoir développé de nombreux projets depuis la création et en particulier des partenariats avec l'éducation nationale qui ont permis de faire avancer cette cause de l'enseignement de l'histoire de la Shoah dans les écoles.
Oui, et donc vous travaillez aussi sur la question de la formation des enseignants, c'est-à-dire que vous proposez des choses pour les enfants, mais aussi des choses pour les enseignants.
Tout à fait. Donc au départ, nous étions, comme je l'expliquais, association de soutien du musée, et puis au fil des années, nous avons développé et adapté un certain nombre de ressources pédagogiques initiées au musée en Israël, et nous les avons adaptées au public et aux enseignants français. Donc nous nous sommes évidemment adaptés au contexte de la France, au public français, et le matériel maintenant circule dans les écoles, en particulier donc dans les écoles primaires à Paris et en province. Et puisque notre lieu, si on peut dire, est en Israël, nous n'avons pas de lieu pour accueillir les enseignants en France. C'est pour ça que nous proposons du matériel qui entre dans les écoles et qui va à leur rencontre.
Alors peut-être, Laurent Klein, vous pouvez nous dire comment vous avez rencontré cette association Yad LaYaled dans le cadre de votre parcours dans les écoles, j'imagine.
Oui, effectivement. Donc j'ai rencontré tout d'abord Emmanuel Wolf, qui travaille avec Yad LaYaled, qui est une collègue directrice d'école maternelle dans le même arrondissement que moi, et qui m'a parlé de cette mallette pédagogique, étant donné que chaque année, les enseignants de CM2 abordent le thème de la Shoah. J'ai trouvé intéressant d'essayer une première fois déjà cette formule. Jusqu'à présent, nous faisions témoigner d'anciens enfants cachés, et les élèves voyaient chaque année le film « Au revoir les enfants » de Louis Malle, auquel ils sont très attachés. C'est-à-dire que les enfants réagissent très très bien à ce film. Ils comprennent que c'est une expérience vécue d'un enfant non-juif qui découvre en fait a posteriori ce qu'a été l'expérience de son camarade juif. Et il y a une certaine empathie de la part des élèves. Et ce que j'ai trouvé justement de très intéressant dans les documents qui sont proposés par Yad LaYaled, c'est que les enfants peuvent entrer dans les témoignages qui sont décrits, peuvent s'identifier aux enfants, mais absolument pas de manière morbide. Au contraire, ils peuvent découvrir ce qu'a été l'histoire d'un enfant qui aurait pu avoir leur âge à peu près, sont des enfants de 9-10 ans hein, en CM2, et ils s'intéressent au parcours de ces enfants, et ils découvrent en même temps ce qu'a été l'ampleur de la Shoah, sans que ce soit traumatisant, parce que c'est un âge quand même où il ne faut pas les brusquer avec des images violentes, mais ils comprennent très bien par ces témoignages ce qu'a été l'expérience vécue par ces enfants.
Oui, parce qu'il faut peut-être aborder cette question, Galit Ouati, c'est la question d'à partir de quel âge et comment est-ce qu'on peut aborder cette histoire de la Shoah avec les enfants. Effectivement, CM2, 9-10 ans, ça semble très jeune.
Oui.
Donc vous avez dû, j'imagine, réfléchir à ces questions de
la sensibilité
des enfants.
Et au moment où on a commencé à réfléchir, il faut admettre que l'éducation nationale en France n'y avait pas encore tellement réfléchi. C'est pour ça que quand la question s'est posée et que les instructions officielles ont incité les directeurs d'école, chaque année notamment le 27 janvier, à aborder l'histoire de l'extermination des Juifs et des génocides reconnus avec leurs élèves. L'intitulé est très précis hein, dans les instructions officielles. Nous avions déjà commencé le travail et en fait... nous étions sensibilisés par les fondateurs de la Maison des combattants des ghettos qui avaient créé donc en 1949 le kibbutz qui accueille aujourd'hui depuis 1995 le musée de Yad Layelen et qui s'était dit « Nous avons été les témoins pour notre génération de ce qui s'était passé en Europe. Nous avons voulu témoigner pour eux qui n'avaient pas pu pour ceux qui n'avaient pas pu nous accompagner en Israël et qui avaient combattu dans les ghettos avec nous. Mais nous avions témoigné pour cette génération-là. Dans les années 90, ils avaient des petits-enfants et ils sont partis de cette question « Comment allons-nous raconter à nos enfants ?» Et c'est d'ailleurs le titre de notre première exposition itinérante qui s'intitulait « Et tu le raconteras à nos enfants » qui circule encore un petit peu, mais moins que sur les traces d'une photo.
Alors vous, Laurent Klein, en tant que directeur d'école, vous avez dû vous poser aussi ces questions de comment l'aborder, à partir de quel âge et comment ménager la sensibilité des enfants et à la fois leur faire accéder à un pan de l'histoire qui est essentiel de comprendre.
Oui, je me suis déjà posé la question avant quand j'étais chargé d'enseignement en classe. Et j'avoue que c'était très difficile parce qu'il fallait quand même mettre une certaine distance. Il ne fallait pas montrer que moi-même, j'étais particulièrement touché par ces événements. Il fallait arriver à ouvrir le débat parce que j'ai toujours travaillé dans le 19e arrondissement où on a une population très mixte, même si malheureusement, on n'a plus beaucoup d'élèves juifs dans les écoles publiques. Mais il y a des élèves de diverses origines qui ont des sensibilités différentes, qui ont aussi dans leur famille une mémoire douloureuse parfois, que ce soit la guerre d'Algérie, que ce soit l'esclavagisme, que ce soit simplement leur condition actuelle d'immigrés sans papier. Et donc ce sont des choses très différentes, mais étant donné que nous sommes aussi dans une période où parfois il y a une sorte de combat à qui sera la victime la plus douloureuse, il fallait arriver à ne pas enfermer cet enseignement uniquement dans l'histoire juive, arriver à l'ouvrir tout en montrant quand même la spécificité de ce qu'a été la Shoah et comment cette spécificité touche la culture et l'histoire européenne en général.
Alors peut-être il faut commencer à parler de cette exposition en tant que telle, donc sur les traces d'une photographie. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment a été fait ce choix donc, de prendre l'itinéraire de 10 enfants, qui ont été sauvés?
Cette exposition est adaptée d'une exposition qui existe à Yad Layelen et qui comportait 20 portraits au départ. Nous en avons sélectionné 8 et nous en avons créé deux nouveaux qui sont, vous ne serez pas étonnés, les portraits français. Et nous avions le souci de montrer la diversité des situations qu'ont pu rencontrer les enfants en Europe. Parce que nous avions évidemment le désir d'abord de choisir des histoires que les enfants pouvaient lire, puisque dans cette exposition, on rencontre l'histoire et les récits des enfants cachés à travers la lecture, c'est-à-dire un témoignage écrit, mais aussi à travers des documents d'archives. Donc il y a eu premièrement, une sélection par rapport à des archives disponibles et des témoignages qui existaient. Mais ça, c'était une chose. Mais ce qui nous importait beaucoup, c'était de montrer la diversité des situations et que la Shoah ne s'est pas appliquée de la même manière dans tous les pays. C'est pourquoi il y a l'histoire d'un enfant hongrois, d'un enfant autrichien, d'un enfant polonais, de deux enfants français, puisque bon, l'exposition circule en France, mais aussi en Autriche depuis quelques mois, puisqu'on en a fait une version en allemand. Et c'est comme ça qu'est né le projet. Et alors, une fois qu'on a eu ces témoignages, on s'est dit qu'il fallait proposer quelque chose de relativement interactif. Et c'est pourquoi on a élaboré un questionnaire qui permettait de guider à la fois l'élève dans sa découverte de l'histoire, mais aussi l'enseignant, puisque libre à l'enseignant, et peut-être que vous l'avez fait, Laurent, d'adapter les témoignages en fonction de la classe, du niveau de lecture des élèves, et de faire des questionnaires simplifiés ou justement d'élaborer des questions un petit peu plus difficiles pour les enfants. Mais on avait le souci de quelque chose qui allait être exploitable, disons pratiquement clé en main, itinérant. Donc c'est une exposition qui, dans sa forme, est facile à installer, facile à transporter, qui est accompagnée d'un livret d'exploitation pédagogique, afin que l'enseignant qui décidera, parce que pour revenir à la question précédente, c'est difficile de prendre la décision d'aborder l'histoire de la Shoah avec de jeunes élèves quand on est un professeur des écoles, qu'on n'a pas forcément de familiarité avec le sujet, qu'on a très peu de temps à y consacrer et qu'on aimerait le faire bien tout en sachant qu'on ne peut pas prendre le risque de ne pas le faire bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que je voudrais dire qu'il m'arrive de rencontrer parfois des familles ou des enseignants qui me parlent de leur envie d'aborder l'histoire de la Shoah, de parler de la Shoah avec leurs enfants. Et ma première question, c'est toujours, mais quel âge a votre enfant? Et il m'est arrivé souvent, à leur grand étonnement, de leur répondre, mais n'en parlez pas. Donc, on a à la fois, c'est toute notre mission aujourd'hui en tant qu'association, que de faire avancer cet enseignement, mais il est vrai que je pense que des enfants de 4-5 ans, parfois la question est posée. Il y a quelques petits outils qui existent, des livres disques assez remarquables qui ont été faits récemment sur des histoires d'enfants cachés notamment, voilà dans quelle problématique nous sommes, et j'aurais tendance, alors que c'est tout mon intérêt de faire avancer cet enseignement, de dire ne commencez pas trop tôt quand même.
Et est-ce que vous n'avez pas eu peur, Galit Touati, en choisissant le parcours d'enfants qui ont été sauvés, de faire écran à tous ceux, la majorité, ce 1,5 million d'enfants qui a été assassiné?
Alors ça n'a pas été un vrai problème, dans la mesure où, quand on lit les témoignages, les enfants racontent ce qui s'est passé pour eux, mais souvent ils décrivent par la bande, comme on dit, ce qui s'est passé pour leurs cousins, pour leurs grands-parents, pour leurs frères et sœurs, etc. Et le sauvetage n'a pas eu lieu pour eux. Donc en filigrane, quand même, apparaissent les histoires des enfants qui n'ont pas été sauvés. Mais pour autant, nous n'abordons pas frontalement l'histoire de la déportation. Et d'ailleurs, dans toute l'iconographie que nous avons choisie jusqu'à présent dans la réalisation aussi bien de la mallette pédagogique que de cette exposition ou de nos autres expositions, il n'y a jamais d'image qui pourrait les heurter. Donc, en quelque sorte, on a choisi, pour parler et pour rendre hommage aux enfants disparus, des histoires de vie qui nous ont semblé, pour des enfants de cet âge-là, beaucoup plus, comment dire, pas prometteuses, mais beaucoup plus... On était, à mon avis, plus certains d'atteindre notre objectif pédagogique. Parce que cette identification dont on parlait peut se passer, parce que... moi, je dis toujours, quand je rencontre les enseignants, puisque nous faisons aussi des formations, des conférences pédagogiques, je dis toujours que moi, ce qui a motivé mon engagement dans cette association, c'était que mes enfants ne découvrent pas l'histoire de la Shoah comme moi je l'ai découvert en classe, avec la projection de Nuit et brouillard. On ne nous avait rien dit avant, on ne nous a rien dit après la projection, et on est resté comme ça. Et quand je rencontre les enseignants de ma génération, pour eux, ils sont très très nombreux à avoir vécu cette expérience-là. Et c'est d'ailleurs ce qui motive aussi leur engagement et leur intérêt pour notre association.
Alors peut-être, Laurent Klein, vous pouvez nous faire part de votre expérience. Vous avez utilisé cette exposition itinérante. Oui. Et peut-être pouvez-vous nous dire comment ça a fonctionné et puis comment ça a été reçu par les enfants.
Alors, on a décidé avec les enseignants d'installer dans une salle qui n'était pas une salle de classe les grands panneaux. Et par contre, en amont, de donner les dossiers aux enfants en leur expliquant, voilà, le contexte historique. Le professeur avait expliqué les grandes lignes historiques de ce qui s'était passé à cette époque. Et les enfants ont choisi donc de travailler sur tel ou tel dossier. Et ensuite, on les a emmenés dans la classe et ils ont découvert en grand les photos des enfants. Donc il y a déjà un choix naturel qui s'est fait de la part des enfants, certains étant plus ou moins attirés par telle ou telle photo. Et ils ont décidé de travailler par petits groupes sur tel ou tel témoignage. Mais pour répondre et compléter ce que vous disiez, l'exposition s'appelle « Sur les traces d'une photo ». Et en fait, je pense qu'il n'est pas nécessaire de dire d'emblée aux élèves ce que sont devenus les autres enfants. Ça apparaît, sans mauvais jeu de mots, dans le négatif de la photo. C'est-à-dire que les enfants se posent naturellement la question « Mais pourquoi avait-il besoin de se cacher ? Pourquoi avait-il besoin de changer d'identité ? Qu'est-ce qui se passait donc pour ces enfants-là pour qu'ils soient obligés de bouleverser leur vie à ce point-là ? Et à ce moment-là, on peut dire aux enfants ce qu'il s'est passé sans entrer dans les détails. Parce que les détails sont tellement atroces qu'ils risquent de faire écran à tout le reste. Et que les enfants s'arrêteraient à l'image qu'ils pourraient mémoriser de l'extermination et ne pas s'intéresser à tout le processus qui a mené à cette extermination. Et en fait, ce qu'on découvre à travers ces témoignages, c'est tout le processus d'exclusion, le processus de mise au ban de la société. Et à ce moment-là, les enfants peuvent parler de leur réaction sans être submergés par l'émotion première que susciterait justement la découverte de l'extermination elle-même. Ceci dit, bien entendu, il n'est pas interdit aux enseignants d'aborder, par exemple, l'histoire des enfants d'Isieux. On peut leur parler de l'histoire des enfants d'Isieux, ne serait-ce qu'en leur montrant la photo des enfants d'Isieux et leur dire, ben voilà, ces enfants-là, eux, n'ont pas été sauvés. On n'a pas besoin d'en dire plus en école élémentaire. Je pense que tout le processus d'apprentissage de ce qu'est la Shoah accompagne les élèves à partir de l'âge de CM1, CM2, l'âge auquel ils commencent à s'y intéresser. Et puis je dirais qu'en plus, il ne faut pas faire des Juifs l'image type, l'image, je dirais, le patron de ce qu'est la victime. Et donc c'est très important de montrer aussi qu'il y a eu une résistance juive, que les Juifs se sont organisés pour se défendre et pour sauver leurs enfants. Et il est très important aussi de montrer le rôle des justes. Et ça, on peut le faire grâce à tous ces témoignages, effectivement.
Et est-ce que aussi, quand on regarde, donc j'ai eu les dossiers entre les mains qui sont remis aux enseignants, on voit effectivement les questionnaires. Les questionnaires reviennent sur plusieurs choses qui sont assez intéressantes. Ce qui motive les actes des gens, que ce soit les actes des parents, les actes des enfants, les actes des résistants, mais aussi les actes des bourreaux, des criminels. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, la manière... finalement, à travers ces questions dont l'enfant peut raconter lui-même finalement cette histoire, la reconstituer, et prendre conscience du fait que l'histoire individuelle s'imbrique dans la grande histoire et que toutes ces choses sont liées.
Oui, tout à fait. Enfin, Galine, peut-être.
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'était l'objectif. Et c'est vrai qu'on comprend l'intérêt des histoires singulières. Les élèves, ils nous étonnent beaucoup. Et on a eu à plusieurs reprises des petits-enfants qui étaient touchés par l'histoire d'un enfant en particulier. Et dans les classes, ça suscite des choses assez étonnantes, à savoir, ça libère aussi une parole sur beaucoup d'autres choses. Et on reprend toujours l'expression d'une petite fille réagissant aux histoires qui figurent dans notre mallette pédagogique, l'enfant et la Shoah, et qui a dit, en fait, ces enfants, ils étaient comme nous. Et c'est parti de là, en fait, cette réflexion sur les histoires singulières dont on peut tirer, en fait, un enseignement universel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les quelques témoins qui font partie de notre association et qui vont aussi dans les classes raconter leur histoire et qu'on retrouve dans les différents supports pédagogiques, par exemple Mireille Marachin, dont vous connaissez peut-être le nom, Rachel Gédina, qui sont ces grands témoins anciens enfants cachés qu'on peut rencontrer à Paris. Elles vont dans les classes, elles racontent leurs histoires aux élèves et ils retrouvent Mireille dans l'exposition permanente et ils retrouvent Mireille dans la mallette pédagogique et ils la retrouvent encore dans la bande dessinée Les Enfants Sauvés que nous avions publiée avec les éditions Delcourt. Et cette possibilité de s'accrocher au récit d'un témoin, de le questionner. Évidemment, on a conscience que le témoin ne sera pas toujours présent, mais l'histoire singulière, elle vient en fait en relais du récit du témoin voué à la disparition, malheureusement.
Alors, peut-être, Laurent Klein, vous pouvez nous parler de aussi la façon dont les enfants, finalement, à travers ces témoignages, apprennent que ce soit adulte ou enfant, on peut avoir un rôle à jouer dans ces situations-là. On voit bien dans les dossiers que les enfants ont des lourdes responsabilités, qu'on leur demande d'aider, qu'on leur demande de cacher, qu'on leur demande de changer de nom, d'assimiler beaucoup de choses complexes. Et donc, on peut voir que même si on est un enfant, on peut avoir un rôle important à tenir. Et puis surtout qu'on est un objet, un acteur de l'histoire en train de s'écrire, qu'on est toujours un individu qui peut prendre des décisions.
Oui. Je dirais plutôt que même les enfants sont sujets de l'histoire. C'est-à-dire que, effectivement, les élèves sont assez impressionnés par ce qui est arrivé et ce que les enfants ont fait. Ça les impressionne toujours beaucoup. Et pour compléter ce que disait Galit, toujours sur le même thème, c'est-à-dire que ce sont des parcours individuels. Mais la Shoah, ce sont que des parcours individuels. Et c'est le fait que ce soit justement des parcours individuels qui fait qu'on peut entrer dans la compréhension, autant que faire se peut, de ce qu'a été la Shoah. Et puis ça permet aussi de déconstruire, c'est l'occasion aussi de déconstruire les clichés, parce qu'une des questions qui apparaît quand on discute avec les élèves, c'est qu'est-ce que c'est qu'un juif ? Et je disais tout à l'heure qu'il y a de moins en moins d'enfants juifs dans les écoles publiques du 19e arrondissement, alors que la communauté juive y est très importante. Et du coup, les juifs deviennent une espèce d'objet de fantasme, ce qui n'est pas bon du tout, à mon avis, parce que les juifs, ils ne les côtoient pas au quotidien dans l'école, ils les côtoient souvent à l'extérieur de l'école. Et donc là, ça a été aussi l'occasion de parler avec les enfants. Qu'est-ce que vous savez des juifs ? Comment pourriez-vous identifier un juif, puisqu'on parle ici d'identifier les juifs ? Qu'est-ce qu'un juif pour vous, en quelque sorte ? Et du coup, ça permet aussi de déconstruire un certain nombre de clichés et de parler de façon plus large et dans un autre cadre du racisme en général et même du racisme dont souffrent certains élèves, les clichés étant largement utilisés dans toutes les communautés l'une envers l'autre.
Alors peut-être une dernière question, Galit Touati, est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant d'ajouter à ces 10 enfants peut-être un enfant, le parcours d'un enfant tzigane ?
Alors, merci pour la question. Effectivement, dans le livret pédagogique, on a justement mis dans la page de présentation que ce n'est pas exclusif du sort d'autres enfants qui ont pu subir le génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, on aurait pu le faire. On ne l'a pas fait. C'est vrai que nous étions Yad La Yélet France, alors peut-être que c'est une explication, mais on y a pensé.
Merci encore. Je rappelle, Galit Touati, que vous êtes responsable de Yad La Yélet en France, que vous avez conçu donc la version française de cette exposition itinérante consacrée aux enfants sauvés, destinée aux scolaires. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être brièvement comment on peut obtenir cette exposition quand on est une école et qu'on veut l'utiliser ?
Alors, il suffit de nous téléphoner à l'association au 01 45 24 20 36 et vous la commandez. On vérifie ensemble la disponibilité et puis nous vous la prêtons.
Laurent Klein, je rappelle donc que vous êtes directeur de l'école du 19e arrondissement, 17 rue de Tanger. Je rappelle aussi qu'un concert aura lieu donc le mercredi 8 février à la maison de l'UNESCO, donc le concert à l'occasion de l'anniversaire de Yad La Yélet. Donc voilà, avec l'orchestre Thelma Yéline. Merci beaucoup, c'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Deux adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet, www.radio-rcj.info, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.